100% Aiglon, Benjamin Pierson.
100% Aiglon, c'est parti comme tous les lundis soirs après les matchs de l'OGC Nice, France Bleu Azur, la radio des supporters débrief. La dernière rencontre du GIB, les Niçois qui viennent de s'imposer 3-1 à Strasbourg et voient l'Europe se rapprocher, 7 points d'avance sur l'OM 7e à 3 matchs de la fin. Alors le top 6 est-il verrouillé pour de bon? Nos spécialistes vont vous répondre. Autour de la table, un trio magique. L'un à l'expérience de Dante, Patrice Abaganti.
Bonsoir à tous, bonsoir Ben, bonsoir Max,
salut,
bonsoir
Pat.
Notre invité.
Et puis l'autre à la jeunesse et la fougue de Tom Louchet, Valentin, salut.
Salut tout le monde.
Et lui était attendu comme le Messi arrivé au dernier moment.
Ric-crac.
Ouais, un but de Casper Dolberg contre Monaco en fait.
Un gros merci à Mike, chauffeur de taxi qui m'a gentiment pris en charge à l'aéroport de Nice. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu le retour de Strasbourg, mais on est là, on est à l'heure. Merci Mike, super sympa, chauffeur de taxi. Écoute. Je recommande, fan du gym en plus. Donc voilà, merci à lui et c'est parti.
Est-ce que tu as ramené des Meneleux et des Spätzle?
Écoute, j'ai déjà 3 points dans la valise, c'est déjà pas mal, non?
C'est déjà pas mal. Réagissez à l'émission 04 93 82 03 04. Messieurs, pour la première fois de la saison, 31e journée, le GIB s'est imposé après avoir mené au score. Patrice, je te vois avec un grand sourire.
Oui, très content, très content. Moi, ce qui me satisfait plus que le jeu, plus que le match, c'est le fait d'avoir marqué 8 buts en 3 matchs. Et ça, pour moi, c'est révélateur d'une envie de l'OGC Nice à aller chercher cet objectif. Et encore une fois, sur ce match, on a su réagir, on a su faire ce qu'il fallait pour faire ce qu'il faut pour justement amener cette équipe le plus haut possible. Après, il y a des choses qui m'ont déplu vraiment dans ce match. Mais moi, ce que je vais garder le plus, c'est bien évidemment, c'est quand on est dans le money time comme ça, c'est le résultat et avoir gagné à Strasbourg. Il fallait le faire et ils l'ont fait. Je suis fier d'eux et je suis très content pour le club.
Maxime, tu l'as senti ce petit déclic à ce niveau-là, enfin rebondir après avoir concédé
Bah, on sent qu'ils sont portés par une nouvelle dynamique depuis ce naufrage, ce crash contre Nantes, les mots de Bulka qui avait tapé juste. On sent qu'il y a, voilà, il y a une nouvelle atmosphère autour du club, nouvelle dynamique. Tout le monde s'est vraiment recentré sur cet objectif d'aller chercher l'Europe. Du coup, depuis invaincu, 4e match sans défaite, ils auraient mérité de gagner à Reims, ils auraient mérité de gagner à Marseille, ils ont battu Lorient. Et là, effectivement, alors après une entame de match vraiment très, très compliquée où la vitesse des trois attaquants strasbourgeois nous a vraiment fait mal. J'ai quand même moi aimé cette capacité de garder cette forme de maîtrise, cette forme de confiance dans cette capacité à aller chercher ce résultat. Alors le pénalty que va obtenir Shaw change beaucoup de choses, parce que si tu rentres à 0-1 à la mi-temps, peut-être que Strasbourg ne tombe pas comme ça dans ce faux rythme en deuxième période. On sent que les Strasbourgeois qui avaient plus grand chose à jouer, ils ont un peu lâché. Mais voilà, Nice est allé chercher ce succès, même s'il fallait attendre 31 journées pour l'obtenir après avoir été mené, c'est fait. Et ça permet de poursuivre cette dynamique. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de positifs, en tout cas hier, dans un stade où j'avais pas commenté de victoire, moi, depuis que je suis là. Donc, ça nous arrive pas tous les ans de s'imposer à la méno. Donc voilà, quand c'est dans le sprint final, en plus, ça compte double, comme dit le coach.
Exactement. Patrice, tu disais quelque chose d'intéressant, les 8 buts en 3 matchs, chose rare hein, pour l'OGC Nice. Valentin, toi, en tant que supporter, t'étais aux anges enfin de voir cette équipe marquée aller de l'avant.
Ouais, surtout que, comme disait Maxime, le match il avait pas très bien débuté. Guessant, il avait loupé deux grosses occasions, notamment une où moi j'ai crié, c'est quand il donne pas le ballon à Boga, l'une des premières en plus au casse du match. Mais après, finalement, bon, il se fait pardonner en transformant le penalty, il le tire super bien en plus d'ailleurs, hein, ces petits pas là avant de le tirer, superbe technique. Et c'est clair que là, enchaîner des matchs, des bons résultats avec du but, c'est plaisant à voir.
Oui, puis même globalement, c'est vrai qu'on avait une entente, je sais pas si vous le sentiez messieurs, mais une entente entre les milieux de terrain, et puis même si par exemple Boudaoui a fait un moins bon match, j'ai l'impression que par exemple Thuram a tenté de prodiguer ses bancs. Maxime, tu m'as fait un petit nom de la tête, t'es pas forcément d'accord.
Alors moi j'ai beaucoup aimé le match de Thuram, j'ai trouvé beaucoup d'activité, défensivement et offensivement très présent, Thuram retrouvé, on parlait de cette nouvelle dynamique, je trouve qu'effectivement Thuram incarne aussi cette montée en puissance. Par contre les deux autres, Boudaoui et Youssouf, très très compliqué. Boudaoui il a un peu lâché aussi, je trouve, dans toutes ces qualités qui faisaient le joueur qu'il était, on les retrouve pas du tout. Et Youssouf, Ah, je suis désolé, mais alors hier, il n'était pas en état de jouer. En tout cas, il nous a paru très lourd, très emprunté. Et bon, voilà, ça, je suis assez sceptique sur ce trio-là, même si Thuram a quand même surnagé. Et c'est une fois quoi, que Sanson est rentré, il y a eu plus de... Quand Rosario est passé au milieu, là, il y a eu encore une meilleure mainmise et plus d'activité pour aller chercher et verrouiller ce succès.
Après, je vais être un petit peu provocateur, mais est-ce qu'il ne faut pas non plus nuancer cette analyse, parce que bon, Delaine commet une faute vraiment pas belle dans la surface de réparation. Le but de Sanson, c'est une faute de main. Est-ce que, messieurs, il faut pas relativiser globalement la performance globale?
Alors, la performance globale, elle est aboutie, elle est là. Il fallait vraiment gagner à Strasbourg. Après, c'est dans le contenu où moi, quand devant ma télé, je me suis pas éclaté, quoi. Et je le redis, il y a des joueurs qui sont malheureusement sur ce match encore en dessous de ce qu'on attend d'eux, et c'est très important d'arriver à tirer la quintessence de ces joueurs-là. Après, dans le jeu, je suis un fou du football qui va vers l'avant, qui prône le jeu vers l'avant pour aller marquer des buts. Et moi, en première mi-temps, Benjamin, je me suis amusé à comptabiliser pour te dire que j'ai des tocs. Hein, je suis un peu.
Mais t'as des jeux sympas. Hein.
Ouais, je dois être un peu fou, tu sais, dans mon canapé tout seul. Il y en a qui se sont déjà mis des barjots ce mec.
Mais non, pas du tout, Patrice.
J'ai comptabilisé le nombre de passes latérales et en arrière sur un laps de temps, et le passe vers l'avant dans le camp de l'adversaire. Je me suis arrêté à 60 passes latérales ou vers l'arrière pour 12 passes vers l'avant dans le camp de l'adversaire. Moi, c'est pas le football qui m'enchante. Mais après, c'est un football qui marche, qui fonctionne, puisqu'on a encore gagné à Strasbourg, on a gagné plein de matchs dans ce système-là. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Après, le résultat est là, on est toujours en lice pour la Coupe d'Europe. Bravo.
J'ai aussi vu sur le forum et sur les groupes de supporters, justement, la même analyse que Patrice, certains qui disaient, on joue trop vers l'arrière, ça va pas assez vers l'avant. Est-ce que toi, Valentin, en tant que supporter, tu mets quand même un petit bémol sur cet aspect-là, on n'est peut-être pas assez tranchant, peut-être pas assez offensif?
Moi, je trouve, en fait, c'est surtout, il y a un manque, c'est trouver les passes qui cassent les lignes. C'est vraiment un truc que je trouve on retrouve très peu. Le seul qui savait faire ça, c'est par la course, c'est Thuram. Il le faisait très bien l'année dernière. Cette année, là, ça commence à être un peu mieux. Mais en fait, c'est clairement un problème de ça. En tout cas, la première mi-temps, c'était clairement... Ça se voyait, j'enrageais. C'est que c'est bien, on conservait derrière, mais jamais on faisait la passe décisive qui allait te faire éliminer deux joueurs et te faire venir une grosse offensive. De temps en temps, ça arrivait par la gauche, du côté de Bar, Boga, je trouvais, mais c'est trop rare et ça arrive trop peu de temps. Et c'est justement l'un des points négatifs, je trouve, de la tactique de Farioli, c'est que ces genres de passes, on les tente pas, et quand on les tente, on les réussit pas.
Valentin, tu es le représentant des supporters aujourd'hui, en tout cas à la table aujourd'hui. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs 04 93 82 03 04. C'est le numéro qu'a composé Raoul pour donner son avis sur la rencontre. Bonjour Raoul.
Bonjour les amis, j'ai quitté mon Cap Corse d'adoption pour venir passer quelques semaines de vacances à Spromo.
Ah, ah, bah tu as bien fait, bon choix. Salut Raoul.
Mais Patrice, malheureusement, j'ai amené de la charcuterie corse pour les enfants, ils ont tout mangé.
Ah, et moi, ah,
ils ont la raison aussi.
Raoul, sans déconner. Une petite copa, un figaté.
Ben, je reviendrai, il n'y a pas de souci. Écoutez, le match, moi j'ai tenu compte que du résultat. J'ai à peu près les mêmes avis que vous. Le spectacle, on n'y est pas encore. Mais est-ce que ça compte encore le spectacle à 3 journées de la fin? Ce que j'aurais préféré peut-être, c'est donc toujours pareil, c'est un Nice à deux visages hein, sur courant alternatif. Ce que j'aurais aimé, mais ça ne dépendait pas de nous, c'est que d'autres résultats, comme je ne m'attendais pas du tout à ce Brest-Rennes, c'est K4, je voyais au moins un nul de Rennes,
voire.
Mais ça clarifie les choses. Pour ma part, mis à part Lille qui est à 55 points, je vois pas qui Nice pour aller chercher. Par contre, en laissant Lens derrière, je pense que les choses se sont clarifiées et je pense que on peut viser une 5e place avec presque certitude. Et surtout, je me demande si c'est pas mieux.
Ouais, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure.
Voilà. Hein, c'est ça mon point de vue pour l'avenir. Et je vous promets que je viendrai la prochaine fois avec ébullition.
Ah, il y a intérêt, Raoul. Patrice t'attend de pied ferme, mais c'est vrai que Raoul a raison. On a aussi de parler du derby breton. On va dire au René, ça va, vous êtes régalé, vous avez vu des buts, mais vous avez perdu 5-4. T'aurais préféré ça pour...
Non, mais je suis d'accord, Max. Après,
c'est pas dans le Money Time qu'on va changer ses aiglons.
Mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est très important, c'est l'objectif. C'est voilà, peu importe la manière, pourvu qu'on gagne des matchs et qu'on remporte des points qui vont nous faire arriver à ce qu'on a mis en place. Moi, je suis d'accord. Après, je vois pas. C'est pas ce que j'aime dans le football, Max. Mais après, je suis d'accord.
Il y a beaucoup de supporters qui pensent comme toi.
Il y a des résultats. On fait ce qu'il faut. On est là, on est toujours au contact avec les équipes de tête, on est toujours au contact pour avoir une place européenne. On a fait ce qu'il fallait à Strasbourg. Bravo à cette équipe, bravo au club, bravo à tout le monde. C'est très important de finir cette saison avec cette place européenne.
Et notamment, bravo à Dante qui a marqué quadragénaire. Il a marqué
comme j'étais content.
Ah, et lui ben, alors.
Vous savez quoi ? Gardez votre salive, messieurs, pour les tops et les flops. Parce que franchement, la prestation du Brésilien, je crois que tout le monde a adoré.
Samedi 11 mai, la Thaïlande débarque à Nice avec le Nak Muay Grand Prix. À l'occasion de ce tournoi international de Muay Thai, plongez dans l'ambiance des stadiums thaïlandais avec musique, danse, plats traditionnels et surtout 11 combats de boxe thaï. Le meilleur du Muay Thai réuni lors de cette soirée unique, samedi 11 mai à la salle des Rites à Nice. Le Nak Muay Grand Prix en partenariat avec France Bleu Azur.
Tous les matins, en semaine à 8h25, Adrien Mangano et les VIP de passage sur la Côte d'Azur sont sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur.
Salut, c'est Christophe Willem sur France Bleu.
Bonjour, c'est Zazie.
Adrien tend le micro France Bleu Azur à celles et ceux que vous aimez voir au cinéma, à la télé, sur les réseaux. L'actu média, musique, ciné, série, tous les matins à 8h25 et tout le temps sur francebleu.fr et l'application ici.
Les 4 et 5 mai, la Villa Efrussi de Rothschild célèbre les fleurs pour la 13e édition de sa fête des roses et des plantes. Rosiéristes, artisans et pépiniéristes vous guideront parmi les plus belles créations de l'expo-vente. Avec au programme, ateliers interactifs pour enfants, spectacles, animations et visites guidées. Bienvenue à la Villa Efrussi de Rothschild, les samedis 4 et dimanche 5 mai.
Il est 18h19. Un point sur vos conditions de circulation. On commence avec les trains en gare de Nice, avec le train en partant de Nice pour Cannes, justement, de 18h29, qui est supprimé complètement. En revanche, pas de retard, en tout cas pas de perturbations supplémentaires en gare de Cannes. J'ajouterai des ralentissements sur la route à Nice dans les deux sens de circulation sur la voie Matisse, notamment pour rejoindre l'Est, pour rejoindre Acropolis. Ça bouchonne également boulevard Victor Hugo. Vous êtes quasiment à l'arrêt. Allons du côté de Villeneuve-Loubec, des ralentissements route nationale 7 dans les deux sens de circulation. Vous avez 5 minutes de temps de trajet en plus et on termine à Cannes avec des ralentissements boulevard Carnot dans les deux sens de circulation, notamment dans le sens montant avec 8 minutes de temps de trajet en plus. Votre réflexe en cas d'incident, 04 93 82 03 04.
100% Aiglon, 100% Aiglon sur France Bleu Azur.
Deuxième partie de notre émission 100% Aiglon. On évoque l'actu du gym, cette belle victoire 3 buts 1 contre Strasbourg. Messieurs, notre partie cette fois-ci, ce sera les tops et les flops. Et on commence par les tops.
100% Aiglon, les tops.
Et notre capitaine, le commandant T, qui n'a pas encore prolongé Maxime, mais qui est entré dans l'histoire. Deuxième quadragénaire, me semble-t-il, à marquer.
Alors, ils sont cinq, je crois, dans toute l'histoire, mais lui est le troisième plus vieux.
Troisième plus vieux des quadras.
Ouais. Derrière un certain Roger Courtois dans les années 50 avec les stacks avec 3. Et derrière un certain Benjamin Nivet, qui avait marqué avec 3 aussi, ou quand, je ne sais plus.
Certainement 3.
Ouais, 3 aussi. Donc, voilà, et Dante qui rentre dans ce cercle très fermé des quadragénaires buteurs, mais ça c'est pour l'histoire et pour le présent. C'est voilà, quel but, quelle importance. Alors il s'est fait attendre, ça faisait plus d'un an qu'il n'avait pas marqué avec le gym, c'était face à Ajaccio en février ou mars dernier, la victoire 3-0, et ça lui trottait dans la tête. Il nous le disait régulièrement qu'il devait être plus décisif sur les coups de pied arrêtés, et c'est ce qu'il nous dit hier quand on l'interroge sur ce but. Il nous dit on demande tellement, on attend tellement des attaquants, que nous aussi des fois les défenseurs, il faut qu'on amène notre pierre à l'édifice. Hier ça a marché. Et de quelle manière? C'est vrai que moi j'ai tout de suite pensé à Patrice qui a cette théorie, mais qui s'entend sur les coups de tête quand on a des coiffures comme celle de Dante qui peuvent être un petit peu amortis, les ballons. Et là, hier, coup de casque, le front, bam! Et le ballon il est parti dans le filet. C'est la détermination d'un capitaine. C'est voilà, c'est le joueur phare qui montre l'exemple dans un moment comme ça difficile où il fallait aller chercher cette victoire-là. Ça lui fait du bien à lui, ça lui fait du bien à tout le club, et maintenant voilà, je pense que c'est l'heure de prolonger Capi, parce que ne peut pas se passer de lui parce qu'il y a ce but, mais c'est le joueur qui gagne le plus de duels hier. 8 duels remportés, c'est, il n'y a personne qui fait mieux sur le terrain. Donc il y a tout ce qu'il incarne. Et puis sur le terrain, il est encore très performant. C'est la meilleure note, je crois, sur le terrain, que ce soit Nice Matin, l'équipe. C'est lui qui a la meilleure note.
Et d'ailleurs, il est dans l'équipe type de la journée pour la première fois de la saison. Valentin, dans quelques instants, je vais te demander s'il faut le prolonger, réfléchir la question, même si je pense que la réponse est plutôt positive. Mais je sais que Patrice, tu es fan de Dante. En plus, c'est vrai qu'à chaque fois, tu dis, on banalise le fait qu'il soit à chaque fois très bon. Donc, c'est à chaque fois, Dante est présent et c'est lui qui porte l'équipe, en quelque sorte.
C'est le capitaine, c'est un vrai joueur de club, c'est un vrai joueur d'équipe, c'est un joueur qui tous les matchs, remet le couvert, tous les matchs, remet la performance au centre du terrain, et c'est très important. C'est un joueur qui montre énormément d'exemples pour les joueurs qui sont autour de lui. J'ai encore écouté à la fin du match ce que dit Todibo sur lui. Il dit qu'il bonifie le groupe, il dit qu'il bonifie les joueurs qui sont avec lui. C'est vrai, tout simplement. C'est un joueur qui incarne quelque chose, qui amène quelque chose de positif dans ce groupe, et au duo de ses 41 ans, faire ce qu'il fait, gagner autant de duels, être aussi précis, précieux dans le jeu, marquer ce but qui remet l'équipe de, tu vois, dans une dynamique énorme. Moi je trouve que ce but, c'est un symbole, tu vois. C'est quand je l'ai vu partir vers le cop des Niçois avec le point rageur, en montrant qu'il était là, qu'il était le capitaine qui allait amener cette équipe encore une fois à l'Europe. Moi, je kiffe l'homme, je kiffe le joueur, je kiffe tout ce qu'il amène dans cette équipe, et j'ai eu l'occasion de parler 2-3 fois de football avec lui. Crois-moi que le garçon, il a un sympa paquet sur le football.
Et sur la préparation invisible, parce que s'il est capable de marquer un but comme ça, c'est parce qu'il a une belle tablette.
Ah, tu l'as vu à la fin du match.
Ah oui, et puis alors il perd jamais une occasion d'enlever le maillot pour montrer qu'à 40 ans, lui, il les a toujours les tablettes, mais c'est pas que pour faire beau sur la photo. Pour aller chercher cette extension et claquer ce coup de casque, il faut les avoir aussi, les abdos. Et
moi j'ai eu des indiscrétions.
T'as presque les mêmes, mais...
J'ai jamais eu. Même au meilleur niveau de ma vie, j'ai jamais eu ça. Mais bon, enfin bref, c'est pas de moi qu'on parle, c'est de Dante. Et j'ai eu des indiscrétions sur Dante. La première chose que fait Dante quand il se réveille, c'est quoi? Le garçon, il s'étire.
Eh oui.
Dès qu'il se lève, il s'étire. Ça prouve plein de choses. Et je pense pas que dans le football mondial aujourd'hui, tous les footballeurs de haut niveau, quand ils se lèvent le matin, ils s'étirent. Et Dante le fait.
Et je pose un bémol, on est le 29 avril, Dante n'a toujours pas prolongé son contrat à l'OGC Nice. Est-ce que, Valentin, pour toi, il faut le prolonger d'une année supplémentaire, voire 2, voire 3, voire 4, voire 10?
Ah, je pense déjà une année serait bien. C'est même, je pense, une évidence, parce que il a toujours le niveau, ça se voit, comme disait Maxime. Au niveau des duels, c'est lui qui en a remporté le plus. Donc ça montre que clairement, c'est le patron sur le terrain, défensivement. Et surtout que Todibo, je pense, il faut plus se leurrer, mais il va partir. Donc perdre sa charnière titulaire en un mercato, c'est dur à remplacer, c'est dur, d'avoir des joueurs après aussi efficaces, d'avoir aussi un relationnel, parce que même si Dante, entre guillemets, ne serait pas prolongé, je pense qu'il resterait dans les structures du club, mais l'avoir quand même dans le vestiaire en tant que joueur, ça a une plus-value concrète.
Tu parlais du fait que Dante devait rester, selon toi, parce que la défense sera peut-être modifiée avec le départ de Todibo. Messieurs, est-ce que vous sentez, vous, Valentin, tu peux répondre aussi à la question, que Todibo n'y est plus? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire déjà de penser au futur, et pourquoi pas avec un Viti qui est au club, en tout cas qui appartient encore au club? Peut-être, Valentin, rebondir.
Bah, je pense que Viti, je sais pas s'il va rester, mais ce serait plus un backup de Dante à la limite, parce qu'il est gaucher, il me semble. Donc, le positionner en défenseur central droit, c'est pas le remplaçant idéal. Et surtout que Todibo va générer quand même une sacrée somme d'argent. Donc, je pense qu'on peut clairement la réinvestir dans un bon défenseur, qui peut être peut-être un prospect, hein, pas un titulaire établi, mais un bon joueur qui pourra atteindre un très bon niveau.
Il y en a des bons en Ligue 1, des joueurs un peu de stage là qui commencent à émerger. Je pense à Dagba Douarin, s'il y a des profils, Maxime, est-ce que...
Badou hier, à Clermont, il a pris l'eau. Enfin bon,
c'est pas grave.
Chaque chose en son temps, on verra pour la vente de Todibo, mais là, maintenant, il faut prolonger Dante. Mmh. Voilà, c'est une évidence, Valentin le dit. On ne peut pas laisser partir Dante. Lui, de toute façon, tu disais un an, 10 ans. Non, lui, il veut jouer un an. Il l'a dit, c'est clair, je veux jouer jusqu'en juin 2025, et après, basta, on arrête, j'aurai 41 ans. Il veut sa dernière année. Je pense que pour service rendu, on ne peut pas le priver de ça. Ça fait 8 ans qu'il est là, 8 ans que, comme le disait Patrick, il s'étire tous les matins, il fait toujours tout pour être le plus performant sur le terrain, exemplaire en dehors. Rien que pour service rendu, il devrait avoir cette année de contrat. Il va très probablement l'avoir, mais je trouve qu'on devrait, voilà, là, ça y est, c'est peut-être la bonne fenêtre, hein. Il n'y a pas de match pendant 12 jours. En plus, ça pourrait lui permettre d'avoir une petite ovation avant Le Havre, faire un peu comme le PSG avec Zaïre Emery, voilà, montrer le maillot 2025, Dante, ça reboosterait tout le monde, mais ouais. L'argument aussi, effectivement, la vente de Todibo, probable, on ne peut pas repartir l'année prochaine avec une charnière new look, peut-être que Bulka va se faire attaquer, peut-être qu'on aura un nouveau latéral droit, voire Melvin Ba. Dante, c'est la continuité, c'est l'exemple, et puis pour tout ce qu'il a fait, voilà, on prolonge d'un an, c'est le bon moment.
Et puis c'est les performances.
Eh oui,
tu peux mettre tout ce que tu veux, si Dante là, il a 30 ans aujourd'hui, ou 25 ans aujourd'hui, tu dis, ouais, on a un super défenseur, donc il a 40 ans, un super défenseur. Donc oui, peut-être qu'il ne va pas s'installer encore une fois une année supplémentaire dans un rôle de capitaine, dans un rôle de titulaire indiscutable du poste, mais peut-être s'inscrire dans une forme de rotation pour accompagner le futur joueur qui va le remplacer, et d'avoir ce joueur dans le vestiaire, c'est hyper important, et je pense que le club le sait, Florent Ghisolfi, c'est l'importance qu'a Dante dans le vestiaire, sur le terrain, au niveau de tout ce qu'il fait à l'entraînement, de tout ce qu'il apporte à ces jeunes joueurs. Donc oui, pour moi c'est une évidence de le prolonger un an, d'accéder à ce qu'il veut, et de encore une fois lui montrer que on compte sur lui, et que c'est un joueur qui a beaucoup compté à l'OGC Nice.
Juste un petit mot, Ben, parce que hier il nous dit les discussions n'ont pas démarré.
Et c'est bizarre, parce que hier à la télé, moi j'écoute le match, et ils disent on a une bonne nouvelle à vous annoncer, Dante prolonge à l'OGC Nice.
Ça va probablement, c'est aussi les retours qu'on a, ça va se faire. Mais lui nous dit, et c'est quand même la source principale, c'est le joueur, hein, qui nous dit ça en zone mixte, pour l'instant les discussions n'ont pas démarré, les décideurs prendront leurs décisions, moi je fais tout pour que justement je n'ai rien à regretter, je fais tout pour être fier de du travail que je peux produire, mais à l'heure actuelle visiblement les discussions n'ont pas démarré. Là il y a une fenêtre de 12 jours jusqu'au prochain match. C'est peut-être le bon moment, parce que c'est vrai qu'après ça va enchaîner. La dernière semaine, il y a trois matchs de suite. Ensuite, tout le monde part en vacances.
Mais il le mérite, Max. Il le mérite.
Et comme tu le dis, ça l'exonère pas de la concurrence. Derrière, c'est pas parce que tu prolonges un an Dante qu'il est obligé de jouer tous les matchs. Surtout si t'es à la Coupe d'Europe, tu vas avoir besoin de rotation.
Bon, merci messieurs pour cette analyse sur le capitaine Dante. On aura pris un quart d'heure pour Dante. Il mérite en fait une émission de 4 heures.
Il est le bienvenu. S'il veut venir nous annoncer la prolongation lundi prochain, on l'accueille.
Avec grand plaisir, le message est en tout cas transmis, lancé.
À qui de droit ?
À qui de droit ?
Mais Patrice, il a des antennes, il va nous arranger ça.
Ah, merci Patrice.
Sur
Dante qui prolonge et qui annonce 100% Aiglon.
Je vais l'appeler.
Merci Patrice. Merci, c'est super sympa. Bon, il y en a qui ont été un peu moins bons, ils vont quand même rester à l'OGC Nice l'année prochaine. On va évoquer avec vous les flops, messieurs. On a gagné 3-1, certains n'ont peut-être pas été au niveau. Et on va surtout parler dans quelques instants du classement, parce que ça y est, on est quasiment officiellement dans le top 5. Ça commence à sentir très bon l'Europe.
Demain à 10h, bienvenue chez vous.
Bonjour,
Agnès Gall.
Notre invitée a été transformée par son passage dans nos Alpes-Maritimes. Influenceuse et photographe passionnée de gastronomie, grande gagnante en 2023 du concours du meilleur créateur de contenu culinaire de France à Cannes, elle est la marraine de l'édition 2024 de ces Food Influencers Awards. D'influenceur bénévole, Constance Régnier est devenue chef d'entreprise. Elle nous partage dès 10h sa passion. Soyez là.
Suivez l'émission en direct à la radio et sur l'appli ICI, ICI.
Elle revient.
C'est moi la reine des cagoles.
Ziz, la Marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils.
Ben, il faut pas trop en faire, il faut pas oublier que la reine de la soirée, c'est votre belle-fille. Comme j'ai payé la moitié du mariage et moi, on va pas me voir.
Venez rire avec Ziz, samedi 11 mai, à l'espace Jean Ferrat, à Drape.
Oh, ce mariage, on s'est fait avoir avec mon mari.
Ziz, à Drape, samedi 11 mai, gagnez vos places en écoutant France Bleu Azur.
La ville de Nice vous invite à venir fêter les mets. Rendez-vous le mercredi 1er mai et les dimanches 5, 12, 19 et 26 mai au Jardin des Arènes de Cimiez. Partagez un moment de convivialité avec vos proches. Chants niçois, danse folklorique, musique traditionnelle, spectacles et animations pour les enfants sont au programme. Le tout accompagné de spécialités culinaires niçoises. Tout le programme sur fetesdesmets.nice.fr.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Azur, ici, on parle d'ici.
France Bleu Azur, il est 18h31, on fait un point sur vos conditions de circulation, des ralentissements en centre-ville de Nice, rue Vernier, rue Trachel, des ralentissements sur la voie Matisse dans les deux sens de circulation, des ralentissements également au niveau du quai des États-Unis. Vous avez 4 minutes de temps de trajet en plus, et boulevard Victor Hugo, des ralentissements sur l'autoroute A8 au niveau de Saint-Laurent-du-Var pour rejoindre Nice, et puis sur la promenade Mécon à Saint-Laurent-du-Var, et des ralentissements route nationale 7 à Villeneuve-Loubet.
100% Aiglon.
100% Aiglon.
Sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, troisième partie avec vous messieurs, toujours avec Patrice Alberganti, avec Maxime Baquet et Valentin, nos trois consultants foot, pour évoquer cette victoire 3-1 de l'OGC Nice contre Strasbourg.
France Bleu Azur, la radio des supporters de l'OGC Nice.
Messieurs, dans quelques instants, on va se pencher sur le classement, mais puisqu'on a beaucoup débriefé cette rencontre de Nantes, je vous propose qu'on passe avec les flops.
100% Aiglon, les flops.
Oui, parce que tous n'ont pas été exceptionnels. C'est vrai que Maxime, tu disais en première partie d'émission que le trio au milieu de terrain, là, notamment avec Youssouf et Boudaoui, c'était un petit peu juste à l'image d'un Youssouf qu'on sentait un peu en manque de forme.
Ouais, j'ai trouvé Youssouf très emprunté et ça.
C'est ton flop ?
C'est mon flop. Ouais, pour son match et pour la séquence. Parce que j'ai pas trop aimé cette semaine et la gestion du cas Youssouf. On sait qu'il avait rechuté, blessure musculaire avant le match à Lens. Il a mis du temps à revenir. Il revient dans le groupe contre Lorient. Farioli lui donne une demi-heure de jeu. On s'attend à ce qu'il rejoue du coup. Au moins rentre en jeu à Marseille, il joue pas. On lui pose la question pourquoi il joue pas. Bon, il était pas à 100%. C'est une question physique plus que tactique. Ok. Nos confrères de Nice Matin avant le match à Strasbourg évoquent le fait que il a un peu perdu son joueur et on a senti un Farioli revanchard par rapport à ça. Il l'a dit après le match hier à Strasbourg que c'était un des délires qu'il avait pu lire dans la presse, que c'était le joueur avec lequel il avait la meilleure relation, il se connaissait depuis la Turquie. Bon, c'est au moins voilà, on a les deux versions. Mais j'ai l'impression, mais c'est qu'une impression, que il un petit peu dans cet esprit de dire tout va bien avec Youssouf, je vais le mettre titulaire. Alors vraiment, je trouve que physiquement il était pas en état de tenir sa place. Et après, il y a cette séquence où il sort du terrain, l'accolade. Ça sentait un petit peu la mise en scène. Donc, pour tout ça, je trouvais que ça manquait un petit peu de naturel. Et Youssouf, sur le terrain, il n'a pas été bon, quoi, tout simplement.
Maxime, ça, c'est ton flop. Est-ce que, Patrice, tu avais l'air un peu étonné ? Est-ce que c'est un autre flop que tu avais voulu sortir ?
Ah oui, moi, c'est pas. Ndaye Chimi, il n'a pas fait un bon match. Boudaoui n'a pas fait un bon match. Mais pour moi, encore une fois, je cristallise mon attention sur Jérémy Boga. Je suis désolé, Jérémy Boga, en première mi-temps, c'est un centre. En deuxième mi-temps, c'est. Un corner et une percée où il finit par une frappe. Pour un joueur comme lui, c'est pas suffisant. J'ai trouvé beaucoup plus pertinent dans le jeu Mohamed Ali Chou à droite que Jérémy Boga à gauche. Alors tout le monde me dira, oui, mais il a un traitement difficile, il a des joueurs sur le cul. Mais enfin, c'est tous les joueurs de football qui ont des joueurs sur le cul, des marquages individuels, des joueurs qui vont faire en sorte de pas te laisser le ballon. Mais ces déplacements à Jérémy Boga pour se mettre dans les meilleures conditions, il ne les fait pas. Mohamed Ali Chou, lui, le fait. Les appels contre appels pour aller chercher le ballon dans la profondeur, il va vers le joueur, dès que le joueur relève la tête, il part dans la profondeur, il se démarque, il fait ce qu'il faut. Il a plus de on va dire d'implication dans le jeu que ce que procure aujourd'hui Jérémy Boga. Et ce qui me dérange sur ce joueur, c'est qu'il est pétri de qualité. Et il doit faire beaucoup plus, il doit être beaucoup plus important dans le jeu que ce qu'il est pour le moment.
La grosse différence,
c'est mon flop.
Entre Chou et Boga, c'est que Chou fait les appels, Boga ne demande jamais le ballon dans la profondeur.
Non.
C'est presque plus un numéro 10 qui reçoit le ballon dans les pieds et qui éclaire avec sa qualité technique. Mais c'est vrai que pour être un ailier...
Il a dribblé vers notre camp.
Ouais.
Hier.
Mais c'est pas vraiment un ailier en fait, Boga, parce qu'il prend jamais le ballon dans la profondeur. Et par rapport à Chou, qui effectivement lui fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'appels et obtient un penalty comme ça, de l'autre côté, on a un joueur qui lui n'est pas du tout dans ce même registre.
Bon, en tout cas, ça c'était le flop de Patrice, c'est un beau gars. Maxime, toi c'était Youssouf. Valentin, notre supporter autour de la table, quel était ton flop ou tes flops, pourquoi pas ?
Moi j'en ai un troisième, c'est peut-être pas le plus mauvais qui a été sur le terrain, mais c'est celui qui me déçoit le plus en ce moment, et notamment sur ce match, c'est Todibo. Là, encore une fois, il se fait prendre sur le but strasbourgeois comme un bleu. Ce genre d'action, même avec Kylian Mbappé, on le voyait pas, ça n'arrivait pas en début de saison, je trouve. Il a vraiment perdu en ce moment une sérénité. Avant, on le voyait partir en 1-1, on savait déjà qu'il allait récupérer le ballon, il n'y avait pas à stresser. Là, en ce moment, il est plus inquiétant, il est moins dedans, même les relances où il avait quand même déjà un peu de mal, je le trouve plus aussi sûr qu'avant, assez serein, genre... On perd un peu un côté, même ça se voit, on n'est plus aussi serein derrière, on encaisse beaucoup plus de buts. Je ne sais pas si c'est forcément lié à sa baisse de forme, mais en tout cas, ça se ressent de plus en plus.
Effectivement, c'est un peu compliqué à l'image d'un duel aérien qui perd en début de deuxième mi-temps, me semble-t-il. Le ballon lui passe au-dessus de la tête et ensuite il y a un ballon en profondeur de mémoire, messieurs. Bon, ça c'était donc pour vos flops. On va surtout évoquer ensemble durant cette partie le classement. Ça y est, l'OGC Nice commence enfin entrevoir l'Europe. Il y a quelques jours, on était plutôt inquiets avec ce nul à Marseille, cette victoire hier contre Strasbourg. Nice compte 5 points d'avance sur Lens, 7 sur l'OM. Il reste 9 points à distribuer. Messieurs, est-ce qu'on peut dire qu'on est européen?
Alors, mathématiquement, non.
On s'envoie la balle.
Mais voilà, tu as tout dit en fait. Ouais. Il y a 7 points d'avance, il en reste 9 à distribuer. C'est Marseille hein, qui est à 7 points,
oui.
Lyon également, et les deux clubs,
oui,
ils ont des échéances plus importantes aussi à l'esprit. Marseille, il y a cette demi-finale de Europa League, Lyon, il y a la finale de Coupe de France, il y aura peut-être un peu de gestion d'effectifs. Est-ce que ces deux clubs vont prendre ces 9 points? Pas sûr, plutôt non que oui, je pense. Lens est à 5 points, mais Lens, on sent qu'ils finissent la saison sur les rotules. Est-ce que Lens va prendre plus que 5 points? Je pense pas. Donc oui, je pense que, et on l'avait dit hein, le match à Strasbourg hier déjà, il était très important dans la lecture de la semaine à 3 matchs. Il y avait 4 points sur 6 jusqu'à présent. Semaine réussie, ça dépendait d'un succès ou non. C'est fait, semaine réussie, et même pour la suite, je pense qu'on peut dire ça y est, Nice est en Europe, laquelle on verra. C'est vrai que Raoul le disait, on est un peu tombé de notre chaise quand on a vu ce cinquième but à Brestoise. Pour raconter un peu les coulisses rapidement, on était en train d'écrire notre papier avec Léandra de Nice Matin, et on suivait du coup le scénario de ce Rennes-Brest, parce que c'est vrai que la fin de saison du gym pouvait aussi dépendre de ce résultat-là. Et moi, j'étais parti sur le papier après-midi parfaite pour le gym. La victoire, le nul entre un des poursuivants derrière et un des poursuivants devant, ça veut dire que chacun perdait 2 points. Tu revenais à 3 points de Brest, qui était un petit peu en train de patiner. C'était impeccable, et puis il y a ce cinquième but on a mis les papiers à la poubelle, on est reparti sur une feuille blanche, et c'est ça le football aussi hein, c'est pour ça qu'on l'aime, il est plein de surprises. Donc l'après-midi a pas été totalement parfaite. Devant, les trois, en tout cas Brest et Lille ont gagné, ça maintient cet écart assez important, mais au moins je pense que t'as même quasiment verrouillé la cinquième place.
Tu le sens, Valentin, toi aussi, t'es en train de regarder mon écran avec le classement pour bien vérifier. Patrice aussi, là, à ma gauche, regarde le classement parce qu'il y a des tas de lectures possibles. Est-ce que, Valentin, ça y est, on commence à rêver de cette place européenne où on est un peu mesuré compte tenu un peu du calendrier à venir? On rappelle qu'on joue Le Havre, on joue Paris, on joue Lille.
Moi, je pense que oui, là, clairement, même si c'est pas encore mathématiquement fait, l'Europe, Nice jouera l'Europe. Après, à savoir si ce sera la Conférence Ligue ou l'Europa ou la Ligue des Champions. Moi, je pense que la Ligue des Champions, ça risque d'être compliqué. Faudrait que Lille en face, qui quatrième ou troisième, ça tombe complètement, qu'on les batte en dernière journée, que nous, on réussisse à gagner face à Paris, face
au Havre.
Au Havre.
Et donc, Lille, en gros, faudrait faire. Lille joue, pardon, Valentin, je crois rapidement. Lille joue Lyon et Nantes après Nice.
C'est ça, Lille a quand même encore des matchs importants. Nantes, ils les reçoivent, c'est à l'extérieur. Nantes joue son maintien, ça peut quand même être un match un peu piège. Lyon, qui est sur une dynamique de dingue. Et après, nous, en dernier, chez eux. Après, c'est clair que voilà, là Nice, si ça veut jouer la Ligue des Champions, c'est pas entre leurs mains. Là, c'est entre ceux qui sont devant. Faut que ça perde des points, on ne sait comment. Mais en tout cas, je pense l'Europa League. Non, je pense que ce sera la bonne place du gym en fin de saison.
Faudra prendre des cachets pour la tête là, avec tous les calculs à faire. Patrice, je te voyais sur l'écran en train de bien regarder le classement. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce classement? Est-ce qu'on regarde plutôt haut, plutôt en bas?
Non, mais je le répète, il faut toujours regarder ce qui se passe devant plutôt que ce qui se passe derrière. Nous, ce qui est important, c'est ce qu'on fait nous, ce qu'on arrive à faire nous. C'est pas forcément ce qu'ils vont faire les autres. On sait qu'on a encore notre destin entre les mains, et c'est ça, c'est le plus important. Quand t'es dans cette situation-là, t'es cinquième. qu'est-ce que tu risques? Allez, il faut battre le Havre. Tu sais que si tu bats le Havre, t'es en Coupe d'Europe.
Ça y est, voilà, c'est ça.
L'histoire, elle est réglée.
Ce serait beau, hein, la maison, de valider cette place en Europe.
Bien évidemment. Mais quelle Coupe d'Europe tu auras? J'ai envie de te dire, pour moi, personnellement, peu importe la Coupe d'Europe que tu auras, pour valider ta bonne saison, il faut que tu sois européen. Que tu sois européen en Europa Conference League, en Ligue Europa, en Ligue des Champions, pour moi, c'est la même. Je veux dire, ce qu'on met en place Ineos depuis des années, c'est de dire, l'OGC Nice sera un club qui sera européen régulièrement. Si tu es européen tous les deux ans, c'est magnifique. Depuis combien d'années c'est pas arrivé? Rappelez-vous d'où on vient. Donc moi je dis franchement, même si il y a plein de choses qui me vont pas dans cette saison, mais en attendant le résultat, l'objectif sera atteint. Donc moi je dis bravo si on arrive à battre le Havre, et après on pourra calculer si on est capable de battre Paris et de battre Lille, et pourquoi pas aller chercher une place dans la Ligue des Champions. Mais validons déjà notre place européenne. Et
pour aller en Ligue des Champions, il y a deux scénarios. Soit Brest perd pied, mais on a vu qu'hier, cette victoire au bout du temps additionnel, à mon avis, Brest, ça les a relancés,
ils sont animés, hein. Eux, ils sont animés.
Et ils ont un calendrier.
Ils ont un marabout.
Favorable.
Ils ont un marabout.
Sur le banc, tu crois?
Il faut que je téléphone à Eric. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Eric Roy, je vais demander ce qui se passe là. Parce que c'est pas possible. Il retourne des situations, lui.
Hier, à la fin, pour faire une petite parenthèse, on pensait vraiment qu'il allait prendre le 5-4.
Eh oui, mais le football,
il a fait des sauvetages incroyables et à la fin, il marque.
Et là, Nantes, Reims, Toulouse. Alors, Nantes, ça joue le maintien. Mais je pense que Brest, cette victoire, ça y est, ils sont partis là. Et on les arrêtera plus. Par contre, effectivement, Lille, tu peux te dire que sur les deux prochains matchs, après, il faut gagner les deux. Nous, il faut que Nice prenne 6 points.
OK.
Et si Lille fait un nul sur les deux prochains, ne prend que 4. Ça veut dire que tu arrives sur la dernière journée. En fait, si tu arrives à gratter 2 points à Lille d'ici la dernière journée, eh ben, tu t'offres une finale à Pierre-Mauroy où tu serais à 2 points de Lille. Et si tu gagnes à Lille, tu passes devant. Ce serait fantastique d'aller s'offrir une finale à Pierre-Mauroy le 19 mai pour la Ligue des Champions.
Je viens.
À pied?
Je m'en fous.
En vélo?
Je prends l'avion, je viens.
En bateau?
Je m'en fous. Je vais dire à Laurent Goria. Je me paye mon billet d'avion, je viens commenter le match.
Maxime, juste si on a égalité, est-ce que c'est la différence de but particulière entre les deux équipes ou
Le au goal average, et c'est vrai que là tu as raison de le mentionner, Nice plus 11, Lille plus 18.
D'accord. Ouais.
Donc effectivement, si tu es à 3 points de Lille, c'est au goal average, s'il faut aller gagner 4-0 là-bas, alors que l'équipe de Galtier l'avait fait il y a 2-3 ans. Mais non, ce qui serait bien, c'est de réussir à leur gratter 2 points d'ici la dernière journée, là, sur les deux prochains matchs, ce serait fantastique de finir sur une finale comme ça où tu es sûr de jouer l'Europa League et tu peux t'offrir une petite cerise si tu vas gagner à Lille. Et Lille qui, pourrait peut-être un petit peu arriver fébrile sur un rendez-vous comme ça où toi, tu n'as rien à perdre. Par contre, eux, ils auraient peut-être tout à perdre.
Puis on a connu en 2016 cette finale, entre guillemets, pour l'Europe contre Saint-Etienne. Le Gym a gagné contre les Verts qui étaient devant au classement. On finit par s'imposer, finir donc devant les Verts.
Rappelle-toi.
Monaco, bon, ça, c'était le Covid qui avait permis, entre guillemets.
Petit extérieur, pied gauche, là, bam, petit filet, boum, but, ouais. Allez, on part en Europe.
Bon, après, on peut remercier aussi l'arrêt du championnat à ce moment-là.
Mais ça compte, ça fait partie du jeu.
C'est la chance de Patrick Vieira. Valentin, est-ce que tu crois encore au top 4? Est-ce que dans la tête, il y a encore la musique de la Ligue des Champions?
Ah bah, ça reste toujours. Surtout que même si on va affronter Paris, ce sera un Paris qui est déjà champion d'ailleurs, là, depuis ce week-end. Et qui aura passé les demi-finales de Ligue des Champions. Oui. Donc ça reste toujours dans leur tête, sera Ligue des Champions, Ligue des Champions. Peut-être que Luis Enrique,
s'ils sont éliminés, mais peut-être qu'ils seront en décompression, quoi.
C'est ça. Voilà. Ce sera plus fin de saison. On lance des jeunes. On se dit qu'on va les tester pour l'année prochaine. Et Nice, qu'on perde ou qu'on gagne, ce sera pas si grave. Mais je pense qu'en tout cas, c'est le bon moment pour les affronter Paris.
Bon, on espère. En tout cas, oui, Patrice.
Moi, je pense quand même qu'il vaut mieux finir 5 que 4. Hein.
Ah ouais, ça c'est reste ton avis.
Parce que
pour préparer la prochaine
un
saison.
Un tour préliminaire de Ligue des Champions.
On rappelle pour préciser à nos auditeurs.
C'est ça.
Quatrième, ça veut dire qu'il faut jouer d'abord un tour préliminaire à 10 jours de la reprise du championnat avec aller-retour, puis derrière un barrage. Donc
comme
ça veut dire que t'as 4 matchs à passer comme en 2017 effectivement avant d'accéder à cette nouvelle formule de la Ligue des Champions où derrière par contre t'aurais 8 rencontres de Champions League. Donc il y en a qui vont te dire c'est génial. Et, bon,
si Paris gagne la Ligue des Champions, je crois que la quatrième place est directement qualifiée.
Là, c'est pareil. Si, c'est encore possible si les clubs allemands perdent tous les matchs, que le Bayern et que le Borussia Dortmund perdent les demi-finales aller-retour et que les deux clubs français, par contre, gagnent les deux Coupes d'Europe.
C'est compliqué. Ça,
on va devoir être en blé-blanc.
Une belle Europa League.
On va devoir soutenir l'OM, Patrice.
Là, on y va.
Mais oui,
on soutient l'OM ou pas?
Il va finir cinquième.
Ah non, oui. Moi je dis qu'une belle belle Ligue Europa, une belle épopée en Ligue Europa.
Belgrade, Tel Aviv.
Mais on y va, Max, on y va.
Allez, on va partout.
La bagarre.
De Tel Aviv à Chisinau l'année prochaine, messieurs.
Vendredi 24 mai, Sheila au Casino Terrazur à Cannes-sur-Mer. Un show inoubliable. Sheila sera accompagnée de son groupe de rock Hashtag. Elle revisite ses plus grands succès avec une énergie débordante.
C'est vraiment un bonheur de vous retrouver.
Sheila, avec vous, vendredi 24 mai à Cagnes-sur-Mer. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Azur.
France Bleu Azur, il est 18h47. On jette un coup d'œil sur vos conditions de circulation. Des ralentissements à Vinavoubé, route à Sela 7. Vous êtes par choc contre par choc dans les deux sens de circulation, notamment pour rejoindre le centre-ville de Vinavoubé. Ça bouchonne également sur la D35 bis à Antibes pour rejoindre le centre-ville. Également à Cannes, sur le boulevard Carnot, dans les deux sens de circulation, mais surtout dans le sens descendant. Et puis des ralentissements à Nice, en centre-ville notamment. Boulevard du Bouchage et rue Gubernatis dans les deux sens de circulation. Et ça bouchonne également boulevard Pierre Sola. Soyez vigilants. Votre réflexe 04 93 82 03 04.
100% Aiglon.
100% Aiglon
sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, dernière partie de notre débrief. Le gym qui a gagné 3-1 contre Strasbourg. Le gym qui commence à rêver de la plus haute, pourquoi pas en tout cas de la Ligue des Champions, au moins de l'Europe. On va surtout se pencher ensemble, messieurs, cette fois-ci sur Francesco Farioli, qui à un moment était un peu décrié. Bon, est-ce qu'on devrait le limoger? En tout cas, est-ce qu'on devrait continuer avec lui l'année prochaine? Beaucoup de supporters se posaient la question. Et justement, Michel est avec nous pour en parler. Bonjour Michel. Michel, bonsoir plutôt.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Je voudrais revenir sur vos déclarations là, qu'il faut simplement atteindre la Coupe d'Europe l'année prochaine. Moi je vous dis franchement, si on veut vraiment une équipe au top l'année prochaine qui peut rivaliser au niveau de l'Europe et que M. Jim Ratcliffe casse la tirelire, il faut absolument jouer la Champions League, viser au moins la quatrième place. C'est la chance, c'est vraiment cette année ou c'est pas l'année, mais c'est cette année qu'il faut y croire encore.
Mais alors là où Michel a raison, effectivement, c'est vrai que on sent qu'Ineos a un peu détourné les yeux de l'OGC Nice, tout pour Manchester United. Sauf que Man U, c'est terminé la Ligue des Champions, ils y seront pas les Red Devils. Donc ce serait un beau pied de nez à Jim que le Jim termine en Ligue des Champions et pas Manchester. Et peut-être que oui, ça pourrait inciter Radcliffe à aller remettre un petit peu au pot, même si on a bien compris que en gros c'est maintenant au Jim de se créer ses propres revenus en vendant les joueurs. On a suffisamment dit qu'il avait beaucoup investi déjà. Maintenant, à Florent Ghisolfi de valoriser certains joueurs, de les vendre pour avoir un peu de caillasse sur le mercato. Donc, mais l'argument de Michel est effectivement, il est cohérent de par rapport à l'attention et les intentions d'Ineos. Peut-être que finir dans le top 4, oui, ça pourrait changer pas mal de choses.
Ça pourrait changer beaucoup en effet. Et quid de Farioli? On va parler de lui, Michel. Qu'est-ce que tu penses globalement de son apport depuis un an qu'il est arrivé au gym?
Eh bien, écoutez, j'étais plein d'espoir sur les matchs allés. Et puis, il est arrivé au mois de janvier où ça a été la catastrophe. C'était un calvaire tous les dimanches d'écouter les matchs. C'est devenu insupportable. Je ne comprends pas comment une équipe a pu se désintégrer comme ça. C'est inimaginable. Jamais j'aurais cru ça, vous voyez. Et finalement, ces derniers matchs nous redonnent un peu espoir. Mais ça a été ric-rac. Et franchement... j'en reviens pas que cette équipe se soit désunie comme ça pendant les matchs retour, jouant au ralenti, comme vous dites, comme il a dit le monsieur, qui fait 60 passes, qui fait, je sais pas Patrice, combien de passes latérales, qui n'apporte rien. Et tous les dimanches, c'est pareil. On l'a encore vu à Strasbourg. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... je sais pas, mais ils sont pas assez rapides. Regardez Brest, comme ils jouent rapidement, c'est un plaisir de les voir. Quand vous voyez Nice, on se dirait, mais ils sont comme un entraînement.
Bon, le coup de gueule de Michel, ça s'entend. Merci de nous avoir appelé, Michel.
De rien, merci beaucoup.
À très très bientôt, Michel. Toi, Valentin, en tant que supporter, tu le comprends, ce coup de gueule envers Francesco Farioli, première saison. On rappelle, on parlera peut-être après avec Max de l'avenir, il est pisté par l'Ajax. Est-ce que toi, tu es satisfait de sa première saison?
Bah, je comprends que c'est vrai qu'à partir de janvier, l'équipe s'éteigne comme ça, face des résultats nullissimes, et qu'on se dise, on perd des places, on se dit, est-ce qu'on va finalement être en Europe? Ça inquiète, et finalement, on revient bien, et on va obtenir normalement une place européenne. Mais globalement, si on regarde l'ensemble de la saison, c'est satisfaisant, parce que l'objectif, c'était quoi? C'était le top 6. On y est à 3 matchs de la fin de saison. Et même si le jeu n'est pas vraiment présent, ça reste un coach assez jeune, Farioli. C'est, je pense, quelqu'un, en tout cas sur les changements déjà. On gueulait souvent, les supporters gueulaient, ils faisaient des changements assez tardifs, pas assez cohérents. Ils commencent déjà à mieux, à les faire beaucoup plus tôt, à mettre les joueurs qu'il faut, même si moi j'aime pas trop, c'est quand ils sortent très très tôt Mohamed Ali Chou, qui est souvent le seul offensif bon, et que Mofi reste 90 minutes. Mais ça c'est disons qu'il va apprendre, il continue d'apprendre, et que je pense quand il aura les joueurs qu'il va vouloir cet été grâce à Gisolfi, il pourra faire un meilleur taf.
J'aime bien le verbe que tu as utilisé, apprendre. Est-ce qu'il est encore dans cette phase d'apprentissage, ouais. Patrice, tu le sens qu'il est encore en rodage et qu'il peut encore permettre au gym de passer l'étape du dessus?
Je sais pas. Mais apprentissage, il a une idée de jeu, le garçon, hein, Francesco Farioli, il a une identité de jeu qui est propre à lui, qui est basée sur le système défensif, l'animation défensive. On parle de projection offensive, moi je trouve qu'il manque cruellement d'ambition dans son équipe pour aller justement être décisif. C'est vrai qu'il a des opportunités, c'est vrai qu'il a des expecting goals qui parlent pour lui, c'est vrai qu'on manque d'efficacité offensive, et ça c'est criard depuis plusieurs années. Mais je te garantis que quand tu es footballeur professionnel et que tu joues dans l'animation de notre ami Francesco Farioli, ça t'use. C'est fatigant.
Mentalement, tu veux dire?
Ouais, c'est fatigant. C'est fatigant de tout le temps penser à défendre, tout le temps penser à être bien positionné. Alors, bien évidemment, tu appliques les consignes, tu fais ce qu'il faut, mais c'est usant mentalement de répéter ses efforts, de remettre le couvert dans cette animation défensive qui est chronophage, parce que faut pas croire, tu c'est énergivore ce que demande Francesco Farioli, et tu t'éclates pas sur le terrain. Et un joueur de football, qu'est-ce qu'il veut? C'est un joueur avant tout. Il veut s'éclater sur le terrain. Alors, peut-être qu'il progressera, peut-être qu'il aura plus d'ambition offensive, peut-être qu'il aura plus de facilité à faire jouer son équipe s'il a des joueurs qu'il a envie d'avoir avec des profils complètement différents. Mais je pense que pour la continuité et pour les résultats de l'OGC Nice et pour amener le club où on veut l'amener, je suis pas sûr qu'il ait les idées de jeu adaptées à son effectif aujourd'hui.
Bon, on verra en tout cas s'il reste l'année prochaine. Oui, Valentin, tu voulais intervenir?
Là, je suis d'accord avec Patrice. Moi, c'est notamment Laborde. Je trouve c'est un attaquant qui marquait une dizaine de buts par saison avant. Là, il a été replacé à droite, notamment parce qu'il y a Mofi en pointe. Et c'est vraiment le joueur, en tout cas, que je le voyais quand on faisait le pressing, etc., qui vraiment donnait le plus d'efforts possible. Et là, on se rend compte cette saison qu'il est à peine à même pas 5 buts, il me semble, cette saison. Et je pense franchement que c'est lié justement à ça, aux tâches défensives qu'on lui demande. Et après, on lui tape dessus parce qu'il marque pas. Mais aussi, il faut regarder à côté ce qu'il fait en termes d'efforts.
Effectivement. On aura le temps d'en parler dans les prochains débriefs, hein, de Francesco Farioli. Messieurs, Maxime, rapidement, on parlait, il y avait des rumeurs qu'il envoyait à l'Ajax. Est-ce que c'est fondé, selon toi, infondé?
Ah, faut toujours se méfier de ce genre de rumeurs. C'est un média hollandais qui, la semaine dernière, effectivement, assure qu'il est dans une shortlist de 3 noms pour relancer l'Ajax Amsterdam, qui a vécu une saison horrible, parce que justement l'Ajax a toujours eu cette idée de jeu qui semble à peu près correspondre à ce que veut mettre en place Francesco Farioli. On verra. Il lui reste un an de contrat, donc il est sous contrat avec le GC Nice.
C'est ce que j'allais dire.
On voit qu'il fait pas l'unanimité. On en débat quasiment chaque semaine de cette manière de voir le jeu qui nous a d'abord surpris, qui nous a ensuite enthousiasmés, puis beaucoup déçus, comme le disait Michel tout à l'heure. Et aujourd'hui, il va rentrer dans l'objectif. Donc, qu'est-ce qu'on demande à un sportif? C'est de remplir ses objectifs, au moins sur le point de vue comptable. Ça va a priori être le cas. Après, voilà, moi, je suis plutôt de l'avis de poursuivre avec ce garçon, parce que, comme le disait Valentin, il est jeune, il a le droit aussi de progresser sur son coaching, sur sa gestion, parce qu'on sent qu'il est plus tacticien que manager. Mais ça, après, c'est les expériences de vie, la vie dans le vestiaire. Il va mieux connaître son environnement, mieux connaître son vestiaire. Et puis surtout parce que je trouve, Patrice, qu'il y a un manque de stabilité sur ce banc, notamment depuis l'arrivée d'Ineos. Il n'y a pas un coach nommé par Ineos, puisque Vieira était déjà là, et c'est le seul à avoir enchaîné plusieurs saisons. Depuis Vieira, il n'y a pas un coach qui a fait plus d'une saison. Et encore, il n'y a que Galtier qui a fait une saison complète depuis qu'Ineos est arrivé. Donc un peu de stabilité avec un coach en plus qui a rempli ses objectifs. Bon, moi je serais plutôt partant de poursuivre avec ce garçon.
Ah mais moi je vous le garantis, je vous le signe maintenant, il restera. Il restera à Nice l'année prochaine. Ah si, si, si. Il est sous contrat. Il n'y a pas de raison qu'il parte. Il a des résultats qui parlent pour lui. La manière, elle est escalée, mais les résultats sont là. Il n'y a rien à dire. S'il attrape une place européenne, quelle qu'elle soit, il aura rempli les objectifs. Il aura rempli ses objectifs, en plus à lui, personnellement. Donc, il restera. Après, des ambitions sur le jeu, je ne pense pas qu'il en ait d'autres. Sincèrement, je ne pense pas qu'il puisse aller chercher autre chose. Quand je vois comment il a animé cette saison, quand je vois comment il a animé les systèmes durant les matchs où il a été des fois mis en défaut, il n'a pas forcément trouvé la solution pour changer de système et s'adapter à la problématique. Voilà, il peut progresser. Je ne le blâme pas. Hein. Bravo, hein, Francesco Farioli. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le coach qui va te faire passer encore un palier.
On va en parler lundi prochain dans 100% Aiglon. Mais ce prochain match contre Le Havre, le pronostic, Valentin.
Ah bah... Ouais, on va être optimiste.
C'est loin, hein. Mais bon.
Allez, 2-0. 2-0,
Maxime.
Ouais, 2-0.
2-0, Patrice.
3-0.
Et tu voulais avoir un dernier mot parce qu'il nous reste quelques instants pour Marco Di Costanzo.
Ouais, exactement. On a enterré la maman de Marco Di Costanzo, ancien joueur de l'OGC Nice qui a fait les belles années dans les années 90 du club. Et on était tous là, unis autour de lui et sa famille, son frère Carmine et Dominique, son père Gino, pour inhumer sa maman, et on était là à plein de la tour dans le Var. Donc j'ai fait des gros gros bisous, ils savent que je les aime fort tous, et on était vraiment de tout cœur avec eux.
Et on s'associe à ta tristesse.
On pense très fort à tout le monde. Merci messieurs d'avoir été avec moi autour de la table pour cette belle émission. Valentin, très bonne première, félicitations.
Merci Mathieu.
Bravo.
Bravo. Bravo Maxime, bon, tu reviendras aussi.
Si on me laisse rentrer de Strasbourg, hein. C'était chaud, aussi, on m'a boycotté là-bas.
Tu reviens Patrice?
Ah ben moi si vous m'invitez, bien je viens.
Avec pas de match le week-end prochain, mais un débrief quand même lundi.
Un débrief de la globale de la saison.
Voilà, on trouvera.
Voilà. Je vous parlerai de mon week-end.
Eh oui,
pourquoi pas.
Ah oui.
Et il est où ce week-end?
Non, il reste sur Nice, il est très bien.
Il est très bien sur Nice.